Voici une question dont la réponse pourra changer votre vie. Qu'est-ce qui peut remplir le vide intérieur de l'être humain? Le grand livre de Dieu va donner une réponse qui pourra vous transformer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, peu importe qui vous êtes, cette émission est pour vous. J'ai bien hâte qu'on entende ensemble les réponses que la Bible va nous donner aux questions que voici. Est-ce qu'il y a des énoncés scientifiques dans la Bible? Est-ce que la Bible est réellement la révélation de Dieu? Est-ce que la science et la technologie peuvent remplir le vide de notre cœur? Est-ce qu'elles peuvent donner un sens à notre vie? À quoi servent les progrès scientifiques et technologiques? Quelle est la nouveauté dont nous avons réellement besoin? Combien de temps s'est écoulé depuis le roi Salomon jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que l'homme a avancé dans les domaines de la philosophie et de la sagesse depuis le temps de Salomon? À quoi servent les systèmes philosophiques? Est-ce qu'on peut connaître Dieu au moyen de la philosophie? Est-ce que la philosophie et la psychologie peuvent changer la nature humaine? Qu'est-ce qui peut remplir le vide intérieur de l'être humain? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous donner tout un enseignement. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on s'attend à ce que tu nous parles encore aujourd'hui, par la bouche de ton serviteur. Dispose nos cœurs, qu'on puisse aussi retenir tout ce que tu vas nous enseigner, qu'on puisse le méditer et l'appliquer dans chacune de nos vies, pour ta gloire, Seigneur, pour que tu sois glorifié dans chacune de nos vies. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons débuté l'étude du livre de l'Ecclésiaste. Le mot « Ecclésiaste » veut dire « prédicateur » ou « philosophe ». Salomon est l'Ecclésiaste, et il est l'auteur du livre. Puisque Israël était en paix et n'avait pas à se préoccuper de la guerre, puisque la nation était prospère, Salomon a eu le temps de se pencher sur des réflexions philosophiques. L'Ecclésiaste est un livre inspiré. Il rapporte fidèlement les réflexions de Salomon. Cependant, il a fait ses réflexions pendant une période de temps où il était éloigné de Dieu. Les pensées de Salomon ne correspondent pas toujours à celles de Dieu. Ce sont celles d'un homme qui cherche un sens à la vie dans la création et non en se tournant vers le Créateur. En fait, Salomon, comme tout homme naturel qui ne connaît pas Dieu, ne peut que conclure à la futilité de la vie. Dans l'Ecclésiaste, nous remarquons que même si Dieu a donné à Salomon la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple d'Israël, celui-ci n'est pas sage aux yeux de Dieu. À vrai dire, aucun être humain n'est sage aux yeux de Dieu, c'est ce que la Bible déclare. La vie de l'homme est brève, et cela assure l'échec de ses efforts pour trouver un sens à la vie. Chers amis, débutons notre lecture, Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 5 à 7. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. La Bible n'est pas un traité scientifique. Depuis que les conflits entre les chrétiens et les scientifiques au sujet de la Bible ont pris de l'ampleur au 19e siècle, afin de prouver que la Bible est un livre scientifique, des chrétiens voient des énoncés scientifiques dans certains versets, dont les trois que nous venons de lire. Ces versets décrivent un comportement de la nature que tous peuvent observer, même un enfant. Qui n'a pas vu que le soleil se lève et se couche? Un enfant peut le voir, sans rien comprendre au mouvement des planètes autour du Soleil. Même les enfants sont capables d'observer que le vent ne souffle pas toujours dans la même direction. Ils n'ont pas besoin d'étudier la météorologie pour constater ce fait. Nous n'avons pas besoin de nous appeler Albert Einstein pour remarquer que l'océan ne se remplit jamais même si des fleuves s'y déversent. Nous n'avons pas besoin de comprendre les cycles d'évaporation et les mouvements de convection de l'air pour faire cette constatation. Depuis Salomon, les scientifiques ont accumulé les observations et les expériences. Ils comprennent beaucoup mieux les phénomènes et les lois scientifiques qui gèrent la nature. Ces lois ont été formulées à la suite d'observations du comportement de la nature ou d'observations faites au cours d'expériences scientifiques contrôlées. Le fait que Salomon décrit des observations que tous peuvent faire sans comprendre la science ou les causes de ces comportements naturels ne signifie pas qu'il comprenait les lois scientifiques modernes ni que la Bible enseigne ces lois. La Bible est la révélation de Dieu. Avec notre intelligence humaine illimitée, nous ne pouvons pas prouver l'existence d'un Dieu infini dans ses perfections, un Dieu tout-puissant qui est présent partout et qui sait tout. Un humain ne peut pas prendre un recul par rapport à Dieu pour observer si ce qu'il dit est vrai. Le seul moyen que nous puissions connaître un tel Dieu, c'est qu'il se révèle à nous, et c'est ce qu'il a fait. La Bible est la révélation de Dieu. Cette révélation s'est faite au cours de l'histoire de l'humanité. Elle a pour but de nous faire connaître Dieu, découvrir sa grandeur, sa gloire, sa puissance, son amour pour nous et sa miséricorde. La Bible ne prétend pas être un traité scientifique. Ce n'est pas son but. Elle a été écrite avant le développement de la science moderne, donc elle s'adresse aux gens dans un langage qu'ils pouvaient comprendre et non dans un langage scientifique. Nous n'avons pas à prouver que la Bible est scientifiquement exacte. En fait, elle ne contredit pas la science. Par contre, la science ne peut ni confirmer ni infirmer la Bible. La science et la technologie ne donnent pas un sens à notre vie. Nous voyons que la nature passe toujours par les mêmes cycles. Tout demeure comme dès le commencement de la création, nous dit l'apôtre Pierre. Citation de 2 Pierre chapitre 3, verset 4. Nous avons vu à la dernière émission que la Terre subsiste toujours. Si l'observation et l'étude de la nature n'ont pas donné de sens à la vie, et si elles n'ont pas comblé le vide dans le cœur des êtres humains depuis la création jusqu'à Salomon, elles ne pourront toujours pas le faire aujourd'hui. En étudiant la nature pour trouver un sens à sa vie, Salomon a dû rebrousser chemin et se tourner vers une autre avenue. En fait, malgré tout le progrès technologique que nous avons fait, les gens ne sont pas plus heureux. Plusieurs pasteurs québécois vont en Haïti travailler sur des projets dans des petits villages pauvres. L'un d'eux m'a rapporté que les gens sont plus heureux qu'au Canada malgré leur pauvreté. Ce n'est pas la science et la technologie qui vont remplir le vide de notre cœur et donner un sens à notre vie. Poursuivons notre lecture, Ecclésiaste chapitre 1, verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Voici comment ce verset est traduit dans la Bible en français courant. On ne pourra jamais assez dire combien tout cela est lassant. L'œil n'a jamais fini de voir ni l'oreille d'entendre. La version Parole de vie dit: tout cela est ennuyeux. On ne pourra jamais le dire assez. Les yeux voient et ils veulent voir toujours plus. Les oreilles entendent et elles veulent entendre toujours plus. Les recherches scientifiques n'apportent pas le contentement. Déjà, au temps de Salomon, on se rendait compte de ce fait. Ce que nous voyons et entendons ne nous satisfait pas. Aujourd'hui, avec la télévision, nous pouvons nous en rendre compte plus facilement encore. De nombreuses personnes passent des heures devant la télévision. Pourquoi? Elles veulent toujours en voir plus, en entendre plus. Ce qu'elles ont vu et entendu jusqu'ici ne les a pas comblées. D'autres aiment voyager et découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles cultures. Notre planète est belle et nous y trouvons de nombreux endroits fascinants à visiter. L'homme n'aura jamais terminé l'exploration de l'univers. Chaque fois qu'il fait une observation qui confirme une théorie, la même observation soulève autant de questions qu'elle n'en répond. Nous n'en arrivons jamais au point où nous avons tout compris. Cela est vrai de tous les domaines de la science. L'univers est trop vaste pour nos petits cerveaux. Cependant, de toutes les créatures de Dieu, seul l'homme réussit à comprendre l'univers jusqu'à un certain point. Les yeux et les oreilles des hommes ne sont jamais satisfaits. Ils veulent toujours en apprendre davantage et découvrir de nouvelles choses. Les recherches ne remplissent jamais le vide de l'âme et ne donnent pas un sens à la vie. C'est pourquoi les hommes cherchent toujours. Ils ne sont jamais contentés par ce qu'ils ont découvert. Retournons notre texte, Ecclésiaste chapitre 1er, les versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Chers amis, depuis Salomon, les hommes ont inventé de nombreux objets qui n'existaient pas alors. Cela s'est fait graduellement, un pas à la fois. Cependant, de nombreuses inventions sont des imitations de la nature. Un excellent exemple est le Velcro. L'inventeur du Velcro a été inspiré par une plante épineuse en forme de bulbe qui s'est attachée à son vêtement. Nous nous enorgueillissons de nos ordinateurs, mais Dieu nous a donné un cerveau qui a la faculté d'imaginer et de créer des choses. L'ordinateur n'est qu'un mécanisme qui ne sait pas réfléchir. Il exécute mécaniquement les commandes que nous lui donnons. Le cerveau humain est supérieur à un ordinateur. La science n'a pas éliminé l'injustice ni la souffrance humaine. Cependant, le progrès scientifique n'a rien apporté à l'homme si ce n'est, à l'occasion, un peu plus de confort. Les hommes ont abusé de toutes les découvertes scientifiques et technologiques. Elles servent à fabriquer des armes et à tuer des civils et des enfants. Présentement, nous détruisons la planète sur laquelle nous vivons. Si le progrès nous apporte du confort en temps de paix, il apporte aussi beaucoup de souffrance pendant les conflits. Nos ordinateurs facilitent certaines tâches, mais ils sont aussi des outils dans les mains des pornographes, des pédophiles et des fraudeurs. L'arrivée de l'ordinateur n'a pas soulagé le travail des secrétaires, mais il a souvent été une occasion de les surcharger de travail et de leur donner plus de responsabilités. La science a permis de produire des médicaments, mais nous faisons aussi un usage abusif de la science médicale. Nous nous en servons pour fabriquer des drogues dangereuses. Puisque l'homme a une nature déchue et pécheresse, le progrès technologique ne change rien. Il y a autant d'injustices et de souffrances qu'auparavant. Les gens ne se sentent pas aimés davantage. En fait, la technologie a créé autant de problèmes qu'elle en a résous. La vie n'a pas plus de sens qu'auparavant. Des milliers de personnes la considèrent futile. Il nous faut une nouvelle nature. La nouveauté dont nous avons besoin, c'est une nouvelle nature. Nous avons besoin que Dieu remplace notre cœur de pierre par un cœur de chair. Nous devons naître spirituellement. Dieu fait cela pour vous lorsque vous recevez le Seigneur Jésus comme Sauveur. C'est vraiment la seule chose nouvelle que vous pouvez recevoir, et elle est gratuite. Demandez-la à Dieu dans la prière. Poursuivons la lecture d'Ecclésias, chapitre 1er, verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Salomon a tenté de trouver le contentement dans l'étude de la science, mais il est arrivé à cette conclusion. L'homme désire être important, et il fait tout pour être admiré du public. Cependant, la mort l'appelle et il doit se retirer de la scène. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Vous rappelez-vous des artistes qui étaient populaires il y a 50 ans? Pouvez-vous me nommer un artiste populaire au tout début du 20e siècle? Pourriez-vous dire qui était le premier ministre du Canada ou de votre province en 1940? Qui a rapporté des médailles olympiques en 1936? Parfois, j'entends dire aux nouvelles qu'un artiste est décédé. Cette personne est très âgée, et j'ignorais qui elle était. Loin des yeux, loin du cœur. Aussitôt que l'on se retire de la scène publique, on commence à nous oublier. Nous montons sur la scène, nous faisons notre numéro, la mort nous appelle, et nous sombrons dans l'oubli. Salomon fait des recherches intéressantes, et son laboratoire est sa propre vie. Il essaie toutes sortes de choses, tout ce qui est disponible sous le soleil. Il vivait dans les circonstances idéales pour se permettre de faire cela. Peu de personnes peuvent en faire autant aujourd'hui. Salomon a étudié la nature et il n'a rien trouvé pour donner un sens à sa vie. Salomon va maintenant se tourner vers le domaine de la sagesse et de la philosophie. Ecclésiaste, chapitre 1er, versets 12 et 13. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. » J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Salomon a passé beaucoup de temps à étudier les philosophies de son époque. Il a été roi environ 1000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans se sont écoulés depuis Salomon. L'homme a inventé de nombreux gadgets depuis ce temps, mais il n'a pas avancé dans les domaines de la philosophie et de la sagesse. Dans ces domaines, nous sommes demeurés au même point que Salomon. Les philosophies et la sagesse ne comblent pas le cœur humain. Nous y trouvons toujours le même vide. Nous cherchons toujours un sens à la vie. Verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. La philosophie mène à une appréciation pessimiste de la vie. Les systèmes philosophiques conduisent à un cul-de-sac. Nous pouvons prendre le temps de faire le même exercice que Salomon, et, si nous le faisons, nous arriverons à la même conclusion que lui. En fait, nous aurons perdu notre temps. Les éducateurs sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes d'enseignement. Ils en cherchent toujours une meilleure. Ils rejettent les méthodes d'autrefois. Cependant, je pense que les méthodes utilisées aujourd'hui ne sont pas meilleures. Elles sont aussi une perte de temps. L'homme ne peut jamais apprendre la chose importante. Il ne peut pas faire la connaissance de Dieu au moyen de la sagesse et de la philosophie. Le seul moyen de connaître Dieu, c'est qu'il se révèle à nous. En général, la philosophie mène à une appréciation pessimiste de la vie. La philosophie et la psychologie ne changent pas la nature humaine. Vous ne pouvez pas prendre un homme naturel, qui est un pécheur, perdu, séparé de Dieu, lui donner une éducation et vous attendre à ce que cela lui permette de régler les problèmes de sa vie. L'éducation ne donne jamais un tel résultat. La philosophie et la psychologie ne changent pas la nature humaine. Ces sciences ne peuvent pas réformer notre vieille nature. Voici un témoignage pertinent d'un des scripteurs de notre équipe. Soyez attentifs. Écoutez ce qu'il a vécu. Je viens d'une famille pratiquante. À l'adolescence, comme de nombreux jeunes de mon âge, j'ai commencé à mettre en doute les enseignements de ma religion. Lorsque je suis allé à l'université, j'ai découvert que les prêtres eux-mêmes ne croyaient pas ce qu'on nous avait enseigné. J'ai cessé de croire à ma religion. Je suis devenu un agnostique, c'est-à-dire une personne qui, sans être athée, ne sait pas que croire au sujet de Dieu. Cependant, je ressentais un vide profond en moi. Pour le combler, je me suis mis à rechercher dans tous les domaines. J'étudiais les sciences physiques et les mathématiques. Cependant, je me rendais à la librairie de l'université et j'achetais des livres dans tous les domaines. Philosophie, psychologie, sociologie, les grandes religions du monde, l'ésotérisme, l'occultisme, biologie, évolution. J'ai lu de nombreux classiques de la littérature. Cependant, rien de tout cela n'a donné un sens à ma vie. J'ai obtenu mon diplôme et je suis devenu un enseignant. Pourtant, la vie n'avait pas de sens. Je pensais que le mieux que je pouvais faire, c'était d'en jouir le plus possible de mon vivant. J'ai pris une année sabbatique pour retourner faire une année d'études supplémentaires. À l'université, j'ai rencontré des chrétiens des groupes bibliques universitaires. Cette organisation est formée d'étudiants croyants de différentes confessions religieuses. Ces chrétiens ont retenu mon attention car je voyais qu'ils étaient heureux, ce qui n'était pas le cas de la grande majorité des étudiants. J'ai fréquenté les études bibliques, d'abord parce que deux jolies chrétiennes m'intéressaient. Cependant, en lisant la Bible, j'ai compris pourquoi j'avais ce vide intérieur. J'étais un pécheur et mon péché me séparait de Dieu. Je devais naître spirituellement. Les chrétiens du groupe attribuaient tout leur bonheur au fait d'être nés spirituellement et au fait que Jésus-Christ vivait en eux. Je trouvais leur langage étrange, mais je voyais aussi qu'ils avaient un bonheur et une paix que je ne connaissais pas. Cependant, aujourd'hui je connais ce bonheur et cette paix. Je l'ai eu le jour où, me voyant pécheur, j'ai demandé à Dieu de me faire naître spirituellement. Il l'a fait. Il m'a montré aussi que j'étais assuré d'aller au ciel parce que son fils Jésus avait payé pour tous mes péchés en mourant à la croix. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti un vide intérieur. Nous devons regarder la réalité en face. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle jusqu'au premier conflit mondial de 1914 et 18, les gens croyaient que la science améliorerait le monde et que tout irait de mieux en mieux. La technologie s'est mise à progresser beaucoup plus rapidement grâce à des inventions qui ont bouleversé le monde. Les engins à vapeur ont permis le développement des systèmes ferroviaires et la traversée rapide des océans. Ensuite, les moteurs à explosion ont remplacé les engins à vapeur. Ceci a permis le développement de l'industrie automobile et de l'aviation. L'électricité a donné jour au développement de l'électronique avec le télégraphe, le téléphone et la radio. Cependant, les deux guerres mondiales ont effacé tout optimisme tant qu'à l'avenir de l'humanité. Les méthodologies industrielles ont servi au génocide des Juifs. Le développement des armes de destruction massive a débuté pendant la Première Guerre avec l'utilisation des gaz sur les champs de bataille. Le cœur humain n'avait pas changé. Il était demeuré égoïste et assoiffé de pouvoir. Les gens étaient aussi méchants et injustes qu'auparavant. La science et ses possibilités d'améliorer bien des choses n'avaient pas mieux disposé le cœur humain. De plus, il en a été ainsi du côté politique. Des programmes politiques se sont formés afin de réformer la société selon certains principes philosophiques. Certains voulaient éliminer les classes sociales. D'autres désiraient la libre entreprise. Cependant, aucun type de gouvernement ou aucun parti politique n'a donné les résultats escomptés. Oui, chers amis, le cœur humain est corrompu. Les gouvernements finissent donc par se corrompre. L'être humain a besoin d'un cœur nouveau. La Bible appelle cela une nouvelle naissance. Seul Dieu peut lui donner cela. Seul celui qui place sa confiance en Jésus-Christ peut obtenir ce nouveau cœur et cette nouvelle vie. Oui, seul Dieu peut vous donner un sens à votre vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Ecclésias chapitre 1 verset 15 à chapitre 2 verset 10.
Oh, merci beaucoup, Régent. Et merci pour le témoignage que tu nous as raconté au sujet d'un des scripteurs de notre équipe, démontrant que la science, la philosophie, la psychologie, l'évolution, la religion et toutes les autres choses qu'on peut apprendre ne peuvent remplir le vide de l'être humain. Seule la nouvelle naissance qu'on obtient par la foi en Jésus-Christ peut remplir ce vide. C'était bon de l'entendre. Merci. Oh, mes amis, je ne suis pas une très grande intellectuelle, mais j'ai quand même cherché la vérité, la justice et l'amour, non seulement à travers la vie que j'ai menée, mais aussi en lisant des livres traitant du pouvoir de la pensée, en faisant du yoga, en observant des gens qui pratiquaient la méditation transcendantale, en visitant des 10 heures de bonne aventure, en questionnant des gens religieux. Et 2 fois, j'ai visité des psychiatres, et j'en ressortais toujours bredouille, c'est-à-dire sans avoir rien obtenu. Et à travers ces recherches, j'ai sombré dans la débauche, et j'ai décidé que ça ne valait même pas la peine de vivre. J'ai donc fait une tentative de suicide. Mais Dieu merci, j'ai finalement rencontré une personne qui avait trouvé un sens à sa vie. Et elle m'a dit comment je pouvais, moi aussi, savoir pourquoi j'étais sur la terre et ce qui m'attendait dans l'au-delà, c'est-à-dire après la vie terrestre. Tout ce qu'elle m'a dit pouvait être confirmé dans la Bible. Elle m'a dit ce que Jésus lui-même avait dit dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 16. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais permettez-moi de vous le citer de nouveau. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et j'ai réalisé que ce quiconque, c'était moi. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Et j'ai avoué que j'étais une pécheresse perdue, puisque Paul nous le dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je voulais plus m'en priver. Je me suis repenti. J'ai décidé de me détourner du péché et de me tourner vers Jésus, sachant qu'il était mort sur la croix pour payer la dette de mon péché, sachant que c'est pour moi qu'il était là, crucifié, que c'était pas les clous qu'il retenait sur la croix, mais c'était son amour pour moi. Et je lui ai tout simplement demandé de me sauver, de me donner la vie éternelle, et il l'a fait. Mon ami, veux-tu un vrai sens à ta vie? Veux-tu une vie qui va continuer jusque dans l'éternité, dans la présence de Dieu? Eh bien, tu peux la recevoir, cette vie, maintenant. C'est gratuit. C'est Jésus qui a tout payé à la croix. Repens-toi, toi aussi. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Et reçois-le comme ton sauveur, comme ton maître. Tu vas voir qu'il est un maître merveilleux, rempli d'amour, cet amour pour toi.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel
www.radioespoir.ca. Adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.